أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أفعالنا وأعمالنا وأقوالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن إذا كان كيف يكون، نشهد ذلك شهادة نطق باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ورائدنا وزعيمنا وأستاذنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من الله، فتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره ودعا بدعوته وسلك سبيله إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، معاشر المؤمنين الكرام، un autre épisode concernant la science et le savoir en islam, inshallah azza wa jalla, et peut-être le dernier pour cette fois-ci. Et toujours en parlant de l'importance du statut du savoir et de la science, le statut des savants bi'innillahi tabaraka wa ta'ala dans notre religion. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'importance de la science à travers le statut quand les savants, inshallah azza wa jalla. Et je vous ai dit, les dîmes héritiers, les messagers, les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des savants. Et qu'il n'y avait pas photo en comparant un savant et un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, quand Allah subhanahu wa ta'ala met les savants au-dessus des combattants et des martyrs dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Abdullah ibn Mas'ud qui nous disait tout simplement que le jour du jugement, les martyrs, quand ils vont voir ce qu'a donné la Azza wa Jalla aux savants, souhaitaient, c'était à leur place. Souhaitaient être des savants au lieu d'être des martyrs. Et pourtant, le martyr a un statut spécial auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Première goutte de sang, elle absout, elle efface tous les péchés. Le martyr a la possibilité d'intercéder auprès de l'Allah subhanahu wa ta'ala pour des dizaines et des dizaines des membres de sa famille. Son sang, son odeur se transformera en misk, bi'inillahi tabaraka wa ta'ala. Et malgré cela, il voulait être des savants, inshallah azza wa jalla. C'est Al-Hassan al-Basri qui disait que si on va mettre une balance, dans une partie on va mettre la peur des savants, la science, le savoir des savants, et de l'autre côté le sang des martyrs, il n'y aura pas photo. Ce qui pèsera, ce sera l'apport, ce sera le savoir, la science des savants. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Aujourd'hui aussi, j'aimerais bien vous en parler de l'importance de la science, mais surtout à travers le respect, la reconnaissance que les gens vouaient aux savants. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Et ce, à travers un certain nombre d'exemples. Bi'idnillahi azza wa jalla. Sallu ala rasulillah. Le premier exemple que nous démontre l'importance de la science à travers les savants et à travers le respect qu'on doit aux savants de l'Allah Azza wa Jal, c'est l'exemple de Zayd ibn Thabit, un compagnon du prophète alayhi salat wa salam. Zayd ibn Thabit, à l'âge de 13 ans, a voulu rejoindre l'armée du prophète alayhi salat wa salam pour participer à la bataille de Badr. Zayd ibn Thabit, 13 ans, ce n'est pas un âge pour combattre dans le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à ce que dit Charlie Hebdo. Vous le connaissez, Charlie Hebdo? L'islam, c'est l'islam. L'islam, c'est la religion du sang, de ci, de cela, et ainsi de suite. On utilise les femmes, on utilise les gens, on utilise les vieux pour tuer les autres, pour... Non, non, absolument pas. Nabi alayhi sallam a vu Zayd ibn Thabit. Il était jeune, il avait 13 ans. C'est pas l'âge pour combattre dans le sens de subhanahu wa ta'ala. Il l'a reclamé. Non, toi, tu vas pas venir avec nous. Zayd ibn Thabit voulait tellement combattre dans le sens de subhanahu wa ta'ala. Il est revenu chez lui en pleurant. Sauf que cet échec-là, ça a transcendé Zayd ibn Thabit. Aujourd'hui, nous, quand on va subir un échec dans la vie, c'est comme si toutes les portes sont fermées. Ils n'entendent pas ailleurs. Bien, Jamal. Quand on a un échec dans un domaine, ça ne veut pas dire qu'on est nul dans tous les domaines. On peut réussir. On peut exceller dans d'autres domaines. Chose qu'a faite Zayd ibn Thabit. Malgré ses 13 ans, mais il était d'une maturité exceptionnelle, extraordinaire. Zayd ibn Thabit s'est rendu compte qu'il avait une autre capacité, qu'il avait un autre atout, qu'il avait une autre vertu. C'est quoi? Il était intelligent. Il avait cette capacité à mémoriser, surtout le Coran al-Karim, et surtout, c'est quelqu'un qui excellait dans la lecture et dans l'écriture. Chose rare de l'époque du Nabi alayhi sallam. Chose demandée, recherchée par le Nabi alayhi sallam, par les musulmans à l'époque du Nabi alayhi sallam. Après la bataille de Badr, Zayd ibn Thabit a fait valoir sa famille, sa mère et ses proches pour intercéder, pour plaider sa cause auprès de Nabi alayhi sallam. Ici la mère, An-Nawwar ibn Malik, qu'Allah l'a grillé bien la tabaraka wa ta'ala, qui a servi d'intermédiaire entre Zayd et le prophète sallam. Elle est allée le voir, elle a parlé avec lui en lui disant, Ya Rasulallah, c'est mon fils, c'est notre fils Zayd. Qui connaissait 17 sourates de Al-Qur'an al-Karim par cœur et qui récitait Al-Qur'an al-Karim comme il t'a été révélé. Ça veut dire qu'il maîtrise la récitation et la lecture de Al-Qur'an al-Karim. Et en plus de ça, il est d'une intelligence rare. Et en plus de ça, il sait écrire et il sait lire et surtout, il veut mettre tout ça à votre disposition. On a parlé une fois, quand on a parlé de l'immigration de l'Abbas sallam, de servir l'islam. Et je vous ai dit, quelle que soit nos capacités, quel que soit notre statut, on peut servir la religion de l'Abbas sallam et on peut apporter quelque chose à la religion de l'Abbas sallam. Lui, son seul souhait, son seul objectif, c'est de servir l'islam. Il veut être à tes côtés, il veut être avec toi, et si tu veux, tu peux l'essayer. Et si tu veux, tu peux lui faire passer un test. Et Al-Nabi Asasalam a discuté avec Zayd ibn Thabit, ce qu'on appelle aujourd'hui faire passer un test, et le test a été concluant. Et Al-Nabi Asasalam a demandé à Zayd ibn Thabit d'aller apprendre. Et d'aller apprendre quoi? Le fiqh? Pour dire uniquement ta salat elle est bonne, ta salat elle n'est pas bonne, je ne sais pas quoi. Il lui a dit tu vas apprendre l'aqida pour dire à celui-là tu es kafir, tu es nigari, toi tu es ainsi, ainsi là. D'aller apprendre le jarh ou ta'dil pour apprendre comment critiquer les savants et je ne sais pas quoi. Absolument pas. Quelque chose qui n'est pas dans le centre d'intérêt des gens de l'époque, inshallah tabaraka wa ta'ala. Nabi sallam disait, Azim ibn Thabit va m'apprendre l'hébreu, va apprendre les langues, va apprendre l'hébreu. Pourquoi? Parce que je n'ai pas confiance aux juifs dans tout ce que je dis. Il y a des choses que je dis, et eux, ils vont le transformer. Et comme je ne maîtrise pas l'hébreu, j'ai besoin de quelqu'un avec moi qui maîtrise cela. Subhanallah. Il y a 15 siècles, Nabi alayhi sallam nous demande d'élargir notre centre d'intérêt. Il n'y a pas que al-fiqh, il n'y a pas que al-aqida, il n'y a pas que je ne sais pas quoi, tant qu'on emploie excellé, il y a d'autres choses. Je me souviens, quand j'étais étudiant en Algérie, à Constantine, à l'université islamique à l'époque, le président du conseil scientifique était Cheikh Mohamed Al-Ghazali, alayhi rahmatullah. Il a voulu une autre spécialité. Tout le monde voulait le faire. Tout le monde voulait l'aqida. Il leur a dit à condition, vous allez faire l'aqida, mais vous allez partir en Afrique, au fin fond de l'Afrique, pour apprendre aux gens la religion de la subhanahu wa ta'ala. L'aqida pour rester en Algérie, il leur a dit, j'ai pas besoin de vous. Al-Fiqh pour rester en Algérie, il leur a dit, j'ai pas besoin de vous. Les gens déjà connaissent, on a déjà des imams, on a des gens qui font cela. Mais vous, si vous voulez apprendre ça, allez. Mais je vous vais proposer une autre spécialité. Da'wa wa i'lam, toi, de par ta formation islamique, tu peux être un journaliste. Quand on voit aujourd'hui un journalisme, Quand on voit aujourd'hui les médias, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas par hasard que c'est la quatrième puissance. C'est pas la quatrième puissance, les médias aujourd'hui. Hein, hein, il leur a dit, c'est pour que. Et tout le monde a fait la révolution contre lui. Mais qu'est-ce qu'il veut? Mais il veut traverser l'université islamique, il veut faire ci, il veut faire cela, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cet intérêt. Pour nous, il y a une seule chose qu'on doit apprendre, c'est quoi? Al-Fiqh. C'est quoi? Al-Aqida. C'est quoi? Al-Sira. Oui, ça on doit exceller. Il y a d'autres choses, bien évidemment, à apprendre. D'où Nabi al-Sassalam qui a orienté Zayd ibn Thabit à apprendre les langues, et surtout l'hébreu, et après l'hébreu, le roumain. Parce qu'il y a des Romains aussi, et on doit leur transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains disaient en l'espace de 17 nuits. 17 nuits, Zayd ibn Thabit a maîtrisé l'hébreu. D'autres te diront en l'espace de 6 mois. Quoi qu'il en soit, 17 nuits ou 6 mois. Il est toujours à 13 ans. Allez, il a 14 ans. Donc c'est un collégien. Aujourd'hui, des collégiens, parce qu'il y a parmi nous des collégiens, qui ne savent même pas faire une phrase correctement. Dans leur langue, hein. Leur langue c'est le français. C'est pas dans leur langue maternelle l'arabe, ça c'est autre chose. Il y a des gens aujourd'hui qui ne savent même pas faire une phrase correctement, avec un sujet, un verbe et un complément. Subhanallah. Zayd ibn Thabit à 13 ans voulait servir la religion de subhanahu wa ta'ala auprès de Nabi sallam en apprenant quelque chose de nouveau. L'hébreu, il servir la religion de subhanahu wa ta'ala. À 13 ans, il est devenu le traducteur assermenté officiel du prophète alayhi salatu wa sallam. Et à chaque fois qu'il y a, j'allais dire, une correspondance avec les juifs, avec les roumains, c'est Zayd ibn Thabit qui est là pour l'écrire, pour le faire, inshallah tabarak wa ta'ala, pour le signer avec le Nabi alayhi salatu wa sallam. Quoi qu'il en soit, Nabi alayhi salam est décédé. Il a été remplacé, ou lui a succédé, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Ensuite, bien sûr, Zayd ibn Thabit a fait quelques pas avec Nabi alayhi salam avant sa mort. Et là, Nabi alayhi salam lui a appris un Coran al-Karim. Il faut savoir que parmi les six personnes qui ont appris le Coran al-Karim par cœur à l'époque de Nabi alayhi salam, c'était Zayd ibn Thabit, à cet âge-là. Décédé Nabi alayhi salam, Abu Bakr Siddiq, à l'époque d'Abu Bakr Siddiq, il y avait une bataille qu'on appelle Al-Yamana, dans laquelle énormément de compagnons qui mémorisaient le Coran al-Karim, qui connaissaient le Coran al-Karim par cœur, sont décédés. Et là, Abu Bakr Siddiq a pris peur pour la suite et l'avenir du Coran al-Karim. Si demain, tous ceux qui mémorisaient le Coran al-Karim vont mourir, tous ceux qui connaissaient le Coran al-Karim par cœur vont mourir, comment on va faire? Comment on va perpétuer le Coran al-Karim? Comment le Coran al-Karim va revivre après? Donc c'est là que Abu Bakr Siddiq a repris l'idée de écrire le Coran al-Karim. De faire un livre, de faire un mushaf pour le Coran al-Karim. Il n'y a pas de problème. Mais qui va s'en charger de cette mission-là? Qui n'est pas une mission simple. Qui n'est pas une mission simple. Aujourd'hui, il y a des gens, quand ils parlent, ils te disent, je parle au conditionnel. Pour ne pas dire n'importe quoi. Ce n'est pas pour les musulmans. Les musulmans ne connaissent pas le conditionnel. Les musulmans, même si quelqu'un n'a rien dit, ils vont te dire, oui, il a dit, j'étais présent. Les autres, les non-musulmans aujourd'hui, quand ils parlent de quelque chose, ils disent, au conditionnel. Imagine, tu vas rassembler le Coran al-Karim. Tu vas écrire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Tu dois la placer. Tu dois l'écrire pour Allah. Ça veut dire la révéler. Il y a plus dangereux que cette mission-là? Il y a plus grave que cette mission-là? Et avec Abu Bakr Siddiq, il y avait Omar al-Khattab, il y avait Othman ibn Affan, il y avait Ali, qui était un ancien dans le savoir, il y avait Saad, il y avait les grands compagnons de Nabi alayhi salam. Mais Abu Bakr Siddiq a choisi pour cette mission qui? Zayd ibn Thabit, qui ne dépassait pas les 23 ans. Alors, le Coran, dans cette version-là, le livre du Coran que vous avez, qu'on a aujourd'hui à la maison, qu'on a sur notre smartphone, qu'on a sur notre portable, c'est Zayd ibn Thabit. Il avait quel âge? Il avait 23 ans. Il y a des gens, ça fait 23 ans qu'ils sont dans l'islam. Ça fait 50 ans dans l'islam, peut-être qu'ils n'ont pas lu. Enfin, ils n'ont pas écrit. Peut-être qu'ils n'ont pas lu, alors qu'on a qu'il ne serait-ce qu'une seule fois dans leur vie. Dans un de Alif Lam Mim jusqu'à Min al-Jinnati wa al-Nas. Subhanallah. Subhanallah. Et Omar al-Khattab, cet extraordinaire homme, hein, disait que si vous voulez savoir le moindre détail dans le Coran al-Karim, demandez à ce jeune. À Marseille, on dit demander à ce minot qui est Zayd ibn Thabit. Ça veut dire que Zayd ibn Thabit avait cette spécialité, connaissant cette science de Al-Qur'an Karim. Rien concernant Al-Qur'an Karim ne peut échapper à Zayd ibn Thabit, alors qu'il avait quel âge? Alors qu'il avait 23 ans. Zayd ibn Thabit, une fois, était dans une janaza, un convoi funéraire. C'est lui qui servait d'imam pour faire la prière du mort. Fini l'enterrement, il veut rentrer chez lui, il avait sa monture. Et quand il a voulu monter sur sa monture, il y a Abdullah ibn Abbas qui a couru vers lui pour lui dire: non, tu vas monter, c'est moi qui vais t'aider à monter. C'est toi, moi, qui vas te faire monter sur ta monture. Mais non, non. Lui a dit: c'est comme ça que Nabi alayhi sallam nous a ordonné de se comporter avec nos savants. La ya'rifu qadra ar-rijali illa ar-rijal, comme on dit en arabe. Celui qui connaît la valeur des hommes, ce sont les hommes. Abdullah ibn Mas'ad, c'est Abdullah ibn Abbas, c'est un homme d'une trempe exceptionnelle, extraordinaire. Et c'est lui, bien sûr, qui va connaître la valeur de Zayd ibn Thabit, bi'illahi tabaraka wa ta'ala. Et Zayd ibn Thabit est décédé à l'âge de 56 ans. Tafouz bi'ilmin ta'ish bihi abadan annaasu mawta wa ahlu al-ilmi ihya'u. Et pourquoi on parle de Zayd aujourd'hui? C'est par rapport à son savoir. C'est par rapport à sa science. Ça fait 15 siècles que Zayd ibn Thabit est décédé, mais aujourd'hui, à Marseille, en 2020, on parle de lui. Et si on veut, on parle de nous. Et si on veut avoir une petite empreinte dans l'histoire, la meilleure des choses, le meilleur des moyens pour le faire, c'est la science, c'est le savoir. Un deuxième exemple, rapidement. C'est l'exemple de Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal, un des compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un auxiliaire, quelqu'un de Madina al-Munawwara, s'est converti à l'islam à l'âge de 18 ans. À 18 ans, donc, il faisait partie de ce groupe des Médinois qui sont venus à la Mecque et qui ont prêté serment d'allégeance au prophète alayhi salatu salam. Et par la suite, il a participé à toutes les batailles auprès de Nabi alayhi salam, à côté de Nabi alayhi salam. Il a participé à la bataille de Badr, à la bataille de Uhud, à la bataille de l'Ahzab, des coalisés, à la conquête de la Mecque, et même par la suite, à Tabouk. Quand on voit que cette personne-là était de tous les combats avec le Nabi Assalam, on tire une conclusion. C'est que cette personne-là est une personne qui excelle dans le domaine de la guerre. C'était un guerrier. C'était un combattant. Mais à côté de cela, il n'était pas uniquement que guerrier, que combattant dans le sort de la Subhanahu wa Ta'ala, mais il avait aussi la science et le savoir, au point où, quand le Nabi sallam avait besoin d'un émissaire pour les Yamanites, il a envoyé qui? Il a envoyé Mu'adh ibn Jabal. Quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, c'est pas pour combattre les Yamanites, c'est pas pour conquérir le Yémen, non, 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 c'est pour apprendre la religion de la subhanahu wa ta'ala aux Yamanites. C'est pour éduquer les Yamanites sur la religion de la subhanahu wa ta'ala. Donc, on a besoin de qui? D'un savant, de quelqu'un qui a le savoir, quelqu'un a la science. Donc, c'est quelqu'un qui a dans sa personnalité deux traits qui pour nous sont parallèles et qui ne doivent pas se rencontrer. Le côté combat dans le sens de la subhanahu wa ta'ala et le côté science et savoir. Mu'adh ibn Jabal a pu avoir les deux. Bi'ilnillahi tabaraka wa ta'ala. Et même après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était avec Omar, il était avec Abu Bakr, ensuite avec Omar, dans la conquête de Hisham, au point où il était émir de Hisham, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Et c'est là où on a les meilleurs éloges concernant Mu'adh ibn Jabal, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Abu Idris al-Khawlani, un des tabi'id, c'est quelqu'un qui venait après, donc c'est quelqu'un qui a épousé l'islam après la mort de Nabi sallam et qui a vécu avec les compagnons de Nabi sallam, la preuve. Il a même côtoyé Mu'adh ibn Jabal. Abu Idris al-Khawlani disait: je suis parti à Damas, je suis rentré dans la mosquée, je trouvais un jeune homme, un bel homme qui avait les yeux noirs, qui avait les dents qui brillaient et qui parlait. Et tout le monde écoutait ce qu'il disait religieusement. Et à chaque fois qu'il y a une question, à chaque fois qu'il y a quoi que ce soit, on revient à la vie de ce jeune homme. Je me suis dit, comment ça se fait? Alors que dans l'assemblée, il y avait des grands compagnons, des vieux compagnons, des vieux compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les gens, peut-être, quand ils sont rentrés dans l'islam, Mu'adh ibn Jabal n'était pas encore né. Il y a certains qui disent qu'ils étaient au nombre de 30. Donc il y avait 30 des plus anciens compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui écoutaient religieusement Mu'adh ibn Jabal. Et quand j'ai demandé à celui qui était à côté de moi, je lui disais, mais c'est qui celui-là? Elle m'a dit, tu ne le connais pas? Comment ça se fait que tu ne le connais pas? C'est qui? C'est Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal, jeune comme il était, avec son jeune âge comme il était, quand il parlait, même les grands compagnons de l'époque de Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, du côté religieusement. Ce sont des gens qui n'osaient même pas le regarder en face. Qu'en faisait le compagnon avec un Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Normalement, quand tu es quelqu'un, devant quelqu'un de charismatique, tu ne le fixes pas dans les yeux. Tu baisses la tête. Tu baisses les yeux. D'ailleurs, quelqu'un, parfois, il ne parle même pas avec son professeur. Il parle avec son père. Il parle avec je ne sais pas qui. Il baisse les yeux. Les grands compagnons baissaient les yeux quand ils voulaient parler avec Mu'adh ibn Jabal bin Azamouj. Pourquoi? Parce que le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lui a donné un diplôme. C'est quoi ce diplôme? A'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adh ibn Jabal. Le spécialiste du halal et du haram. Le spécialiste du licite et de l'illicite, c'est qui? C'est Mu'adh ibn Jabal. Quand tu veux savoir ce que c'est halal, c'est haram, tu dois revenir à la référence. Et la référence absolue de l'époque de Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Aqil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, c'était Mu'adh ibn Jabal. C'était Mu'adh ibn Jabal. Bi'inillahi tabaraka wa ta'ala. Et quelqu'un d'autre disait, qui s'appelle Yazid ibn Qutayb. Il ne parlait pas de Damas, il parle de Homs. C'est une ville aussi syrienne. Il disait, je suis parti dans cette mosquée-là et j'ai vu la même chose. Des gens par milliers écoutaient religieusement cette personne-là. Et quand j'ai demandé c'était qui, il me disait que c'était Mu'adh ibn Jabal. Donc il s'est converti à l'islam à l'âge de 18 ans. Quand est-ce qu'il est mort? Quand il est mort, il y a deux versions. Ceux qui te disent il est mort à l'âge de 33 ans. Et ceux qui te disent il est mort à l'âge de 37 ans. Quoi qu'il en soit, allez, il est mort à l'âge de 38 ans. 20 ans d'islam. Il a laissé toute cette empreinte. 20 ans d'islam. Il a laissé toute cette empreinte. En 2020, on est à Marseille. Et de partout, on parle de qui? De Mu'adh ibn Jabal. Il y a même des gens qui ont appelé leurs enfants Mu'adh. Par rapport à qui? Par rapport à ce compagnon, Jalla subhanahu wa ta'ala. Et nous? Quelle empreinte? Quelle trace? On l'a laissé et on veut laisser. Et si on veut laisser une trace, qu'est-ce qu'il faut? Il faut vraiment avoir de la science et du savoir. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم على الله نتوكل وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد معاشر المؤمنين الكرام سليمان ابن عبد الملك ça vous dit quelque chose? عطاء ابن أبي رباح. Ça vous dit quelque chose? Suleyman ibn Abd al-Malik de son époque, c'était l'émir des croyants. Donc il régnait sur l'équivalent de 12 pays d'aujourd'hui. Et pour les raisons du pèlerinage, il est parti à la Mecque. Et donc il avait des questions de jurisprudence précises concernant le pèlerinage al-Hajj à poser. Et l'imam, le savant de la Mecque de l'époque, s'appelle Atta ibn Abi Rabah. C'est un esclave. C'est un noir et qui épuisait, il avait un problème, il était aveugle d'un œil. Il ne voyait pas. Pour vous dire. Et quand Suleyman ibn Abd al-Malik a voulu poser ces questions, Atta ibn Abi Rabah lui a dit, écoute, là tu es dans le Hajj, tu es dans le collège, tu es un simple citoyen. Tu comptes tout le monde. Qu'est-ce que tu dois faire? Ensuite tu dois faire la chaîne. Ensuite tu dois attendre ton tour, bina tabaraka wa ta'ala. Il a attendu des heures et des heures pour poser ses questions à Atta ibn Abi Rabah, alors qu'il était émir des croyants. Aujourd'hui, chaque émir, je vous le dis, je vous le répète, à son imam, à son savant à côté de lui. Il appuie et la fatwa, elle sort. Il appuie et l'avis qu'il veut, il sort. À l'époque, ce n'était pas comme ça. C'est pour cela qu'on respectait les savants. C'est pour cela qu'ils avaient ce poids-là. Elle a fait la chaîne, l'a attendu, jusqu'à ce qu'il est arrivé à Atta ibn Abi Rabah. Il lui a dit, écoute, mais ce n'est pas parce que tu es l'émir des croyants que tu vas prendre beaucoup plus de temps que les autres. Tu as un temps imparti, tu dois profiter de ce temps-là, tu dois poser tes questions, ensuite tu vas faire ce que tu as à faire, inshallah. Et c'était comme ça. En sortant, en finissant cette rencontre avec Atta ibn Abi Rabah, Suleyman ibn Abd al-Malik, alors émir des croyants, disait à ses enfants, à ses fils qui étaient avec lui, qui l'accompagnaient, écoutez, il faut faire tous les efforts nécessaires pour acquérir le science et le savoir. Tu ne peux jamais oublier ce qui m'est arrivé aujourd'hui en attendant, il disait entre parenthèses, ce petit esclave. Non, ce n'est pas parce que c'est un esclave. Non, ce n'est pas parce que c'est un noir. Non, ce n'est pas parce que c'est je ne sais pas quoi. Non, c'est le savoir. C'est la science qui fait de toi quelqu'un de respecté et de respectable. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas ta filiation, ce n'est pas ton compte en banque, c'est rien du tout. C'est le savoir, c'est la science. C'est pour cela, je vous le dis, je vous le répète, ce que disait l'imam al-Shafi'i, « Man arada dunya fa'alihi bil'ilm, man arada l'akhira fa'alihi bil'ilm » La clé de la réussite dans ce moment, c'est la science. La clé de la réussite dans l'au-delà, c'est la science. Et celui qui peut conjuguer les deux réussites, il faut aussi, et surtout, la science. Bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala. L'imam al-Bukhari avait 16 ans. Quand des milliers de gens venaient le voir pour apprendre le hadith du prophète, alayhi salatu wa salam. Pour apprendre l'explication des hadiths du prophète alayhi salatu wasalam, et je ne veux pas vous rappeler encore une fois l'histoire de Moussa alayhi salam avec le khidr, que nous a détaillé Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim, comme Moussa alayhi salam, messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les 5 messagers majeurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah azza wa jalla a parlé directement. Jamais, au grand jamais, avant Moussa alayhi salam, un prophète ni un messager n'a eu cet honneur-là de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment Moussa alayhi salam est allé avoir quelqu'un dans le statut moindre que le sien? Pourquoi? Pour apprendre. La différence, c'était quoi? C'est parce que Al-Khidr avait une science, avait un savoir que n'avait pas Sidna Moussa alayhi wa alayhi wa sallatu wa sallam. Encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, notre religion, notre belle religion, l'islam, inshallah subhanahu wa ta'ala, est une religion qui se base sur la science et sur le savoir. Et on se doit de acquérir la science et le savoir. Bismillah tabaraka wa ta'ala. Allah nas'al an yaj'al min sami'ina wa tawfiqan wa tajjalan. Allah yas'aluka al-ghina wa al-ridha wa al-huda wa al-tuqa. Nas'aluka 'ilman nafi'an. نسألك علما نافعا، نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له فضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ولكل من طلب منا الدعاء ولكل من طلب منا الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين وأقم الصلاة.